Est-ce que vous pourriez vous présenter ainsi que la structure dans laquelle vous travaillez?
Alors, je suis Juliette Guigon, je suis productrice de documentaires. On a une société qui s'appelle Quark Productions. Je dis on parce qu'on est associés, on est deux producteurs. Donc l'autre producteur, c'est Patrick Vinocourt. C'est une petite structure. On est trois permanents et puis on fait environ six documentaires par an. Et maintenant, un webdoc par an apparemment. Voilà.
Comment est-ce que vous définiriez vous-même le projet Code Barre?
Code-barre, c'est une déambulation et c'est une façon de regarder des films autrement que à la télévision, au cinéma ou à la télé. C'était la première fois qu'on pouvait essayer de sortir les films de leur lieu et de la façon de les regarder. L'idée, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui l'aient fait, mais c'était de pouvoir, en faisant ses courses, scanner des objets et au milieu des courses, voir un film de 1 minute.
Est-ce que vous diriez que c'est un web documentaire par exemple? Parce que là,
Oui,
c'est
je
vrai que la
dirais.
question peut se poser au niveau de la forme.
Non, je dirais que c'est un web documentaire. C'est très. Après, on reparlera de la facture des films, mais l'ambition, elle est documentaire. Les films disent notre rapport aux objets, au monde. Ça dit plein de choses, bien que ce soit des films d'une minute. Et le web, c'est hyper interactif comme objet. Donc, aller convoquer des films avec un code-barre, pouvoir envoyer soi-même des histoires d'objets. Voilà, donc c'est vraiment un web documentaire.
Est-ce que vous pourriez nous raconter comment a été conçu le projet Code Barre? Comment il est né? Avec qui?
C'est pas une idée de Quark Productions, c'est pas une idée de réalisateur. Donc pour nous, c'était très nouveau ça. Les films, ils naissent ou chez nous ou dans la tête d'un réalisateur. On fait rarement des choses qui viennent de l'extérieur, sauf des quelques appels d'offres. Mais là, c'est vraiment Arte, la chaîne, et l'ONF, qui est une institution publique au Canada, des producteurs publics. Ce qui est, en France, on n'a pas vraiment d'équivalent. Ça pourrait être l'INA, qui est financée, qui a du service public, mais l'ONF sont ultra créatifs, sont très en avance sur la recherche. Et donc, c'est une volonté d'Arte qui est très en pointe sur le web. Et ils sont rapprochés avec l'ONF parce qu'ils ont un peu la même dynamique. Voilà. Donc ils s'entendent bien. Et entre eux, le courant est ultra créatif. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de chercher des idées pour innover, avancer. Et nous, on produisait pour Arte, avant ça, un magazine documentaire, de courts-métrages documentaires, ce qui est assez peu fréquent. Donc nous, pendant 2 ans, on a produit, je crois, 150 courts-métrages documentaires. Donc on avait une grande expérience tout d'un coup sur du film de 4 minutes. Et au moment où ils ont réfléchi à Code Barre, à l'idée de film d'une minute, ils sont venus nous chercher.
D'accord,
Voilà.
donc l'idée.
Donc nous, on était un peu déprimés parce qu'on se disait 1 minute, mais où va-t-on finir?
On passe de 15 minutes à 1 minute, c'était
Surtout
un peu
quand
ça.
on fait des 52 minutes, des 90 minutes, donc on se dit mince, ça va rétrécir. Et en fait, c'était génial à faire. C'était génial sur les questions d'écriture de film.
D'accord. Et les réalisateurs, les 30 réalisateurs, c'est chez vous alors, c'est vos
Alors,
30
non, c'est
réalisateurs.
partager les films avec le Canada. C'était vraiment l'idée de faire une vraie coproduction, en termes d'argent, en termes de quantité de films à produire. Donc nous, on en a produit 53. Et donc on a fait travailler, je sais plus, de notre côté, je sais plus, une quinzaine de réalisateurs.
D'accord, que vous connaissiez avant ou que vous êtes allé chercher?
Voilà. Les deux, on connaissait d'avant grâce à ce magazine documentaire qui s'appelle Cut-Up. Et aussi qu'on est allé un peu chercher droite à gauche. Et on s'est rendu compte que pour des films comme ça, de courts-métrages, documentaires, on était allé chercher des réalisateurs qui venaient d'ailleurs. Ce n'est pas les mêmes réalisateurs avec qui on a l'habitude de travailler, de faire des écritures longues, du documentaire plutôt classique, dans des formes classiques de télévision. Et que là, ce n'était pas du documentariste au sens où on l'entend habituellement. C'était des gens qui sortaient pas mal des arts déco, des beaux-arts, de choses un peu plus alternatives et plus ouvertes.
De la vidéo, de l'art vidéo, etc. aussi un peu.
Aussi, ouais. Oui. Mais du coup, en tout cas pour nous, c'était innovant en ce sens-là, parce qu'on sortait d'une écriture ultra classique.
Du coup, l'intention de départ, je ne sais pas si vous êtes la meilleure personne pour nous répondre, mais l'intention de départ du projet, c'était quoi?
Oh bah, si, c'était ça. C'était vraiment faire s'amuser à faire un répertoire des objets qui parlent de nous aujourd'hui. C'est-à-dire, je me souviens des discussions entre Arte et l'ONF qui étaient très drôles. Parce que c'est né vraiment d'une réflexion. À un moment, ils se disaient, on va s'envoyer des capsules de temps, on enverra des films, je ne sais plus comment, dans la nature, dans l'espace, on les récupérera dans 30 ans. Vous, internautes qui aurez vu des films maintenant, vous ferez un petit panier et de 10-15 films et vous les recevrez dans 15 ans en disant, tiens, j'aimais bien cet objet. Et un peu à la façon d'un Je me souviens, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, de se dire que finalement on est touché quand on dit je me souviens d'un paquet de petits lus, de petites choses très anodines qui finalement nous ramènent à des grands moments comme la Madeleine de Proust. Donc l'idée c'était faire ça, de faire de nos vies, enfin d'envisager nos vies à travers plein de petits objets.
À travers la relation qu'on a avec les autres.
Voilà, et donc des choses très très simples.
Ah oui, il y avait une Minitel qui existait. Par voilà, tête, quoi.
Mes enfants ils comprennent pas un disque, un 33 tours. C'est quoi ce frisbee voilà. Et donc pour moi, j'ai une relation très émotionnelle au disque qu'ils ne peuvent pas partager. Et donc c'est comme ça qu'est née l'idée d'une relation aux objets et de faire des films comme ça.
Bon, une question un peu...
Allez, une question bête.
Non, oui, j'aime pas trop ce genre de questions. Quels sont les objectifs de Code Barre en termes de cible et les objectifs communicationnels, en termes de message par exemple?
Moi non plus, je n'aime pas cette question. Les objectifs en termes de cible. Je pense qu'on n'est pas comme dans un long métrage ou un film à la télé en train de se dire ce qu'on cherche, c'est un public jeune, d'enfants ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas vu comme ça. Pour le moment, à Arte, ils sont tellement en train de défricher, de chercher des formes, de chercher des façons d'être par rapport à des films ou à son ordinateur, qu'ils sont d'abord dans l'exploration avant d'être complètement dans la cible. Il se trouve que mon interprétation, moi, c'est que le public d'Arte à la télévision est vieux et que s'ils essayent de le rajeunir à l'antenne, de toute façon, c'est perdu, puisqu'ils vont perdre les vieux.
C'est ce que jeunes, le directeur d'Arte dit lui-même.
Les jeunes ne regardent pas la télévision. Donc, la stratégie d'Arte que je vois comme ça, elle est intéressante parce qu'ils restent très en pointe de création sur le web. Et du coup, j'imagine que des gens un peu plus jeunes sur Arte, ça doit être 35 ans, peuvent venir à Arte par ce canal-là. Je pense qu'il y a un truc ludique dans Code Barre qui draine d'autres personnes qu'un public très prof, très en demande de sens, de contenu, d'apprentissage du monde, façon France 5, et que sur le web, il y a une chose, un rapport ludique et normal à l'œuvre.
Il y a un nouveau dynamisme, peut-être.
Oui, pour nous, en tout cas, moi, je le sens comme ça. C'est-à-dire qu'un côté un peu, de temps en temps, compassé de la télévision, et pour nous, on a l'impression qu'on ouvre les fenêtres quand on va sur le web, de l'air.
C'est vrai qu'on ne peut pas parler d'un ça reste, enfin, c'est un produit audiovisuel, je pense qu'on peut dire ça comme ça, ça fait partie
des... Moi, je ne sais pas dire produit. Non, les gens disent vidéo, je ne sais pas dire vidéo, je dis film, mais on peut, vous dites comme vous
dans
voulez.
Dans une stratégie plus globale qui est celle d'Arte,
oui.
Il y a un moment donné où on ne peut pas se détacher du fait que Arte, c'est aussi quelque part une entreprise, donc il y a forcément des objectifs derrière.
C'est une entreprise publique, ouais. Donc c'est très différent. D'une entreprise comme M6 et TF1 qui ne font pas de documentaires à l'antenne du non tout. Plus, ça n'existe pas. Donc oui, leur volonté c'est quand même de toucher du public et c'est la nôtre aussi. Moi j'ai aucune envie, aucune ambition de faire des films pour l'étagère.
Oui.
Aucune. Et c'est pas par volonté de faire de l'argent ou voilà, c'est que les films qu'on fait, notre satisfaction c'est qu'ils soient et financés, mais ça c'est avant, mais surtout qu'ils soient vus après. Donc la volonté d'Arte, c'est pareil, c'est-à-dire de comment être satisfait sur deux tableaux, à la fois répondre à des critères de création, de créativité, et aussi de rencontrer le public. J'ai vu des films hier ici qui sont sortis du Fresnoy, ultra expérimentaux. Évidemment, c'est pas notre ambition d'être dans une recherche expérimentale qui va toucher quelques aficionados de vidéo art, voilà. Là, bien sûr qu'il y a une envie de rencontrer le public, évidemment. Mais ce n'est pas un vice.
Non, non, non. Quelles ont été les étapes de la production de Code Barre?
Les étapes. Donc d'abord, un grand moment de rencontre, l'ONF, les Canadiens, Arte et Quark Productions. Et nous, on n'a pas rencontré au Canada, mais ça c'est une agence transmédia qui s'appelle Département, qui fait plein de trucs très 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 bien. On se retrouvait en Skype, en je sais pas quoi, vidéoconférence, etc. Pour d'abord défricher ce que serait Code Barre. Est-ce que c'était des capsules de temps? Est-ce que voilà, c'est des films de 2 minutes, de 1 minute? Quels objets? Comment on rangerait les objets? Donc il y avait toute cette partie-là. Et au Canada, en particulier, ils ont beaucoup défriché la question de technique, qui était hyper compliquée à cause des Code Barre. Mais nous, on est resté sur au niveau du contenu des films. Une fois qu'on a été d'accord sur ce que devait être Code Barre, on s'est partagé le nombre de films, on s'est dit qu'on en faisait chacun 50-50. Et la première étape, ça a été de faire des pilotes. C'est-à-dire de se dire, tiens, on se donne chacun 4 films à faire avant de commencer. Quark en fait 4, l'ONF en fait 4, et on se les montre comme une joute pour voir si on était proches dans les intentions. Et ça nous a permis d'affiner. Donc, on a fait un film sur une cafetière, du gâteau savane, je ne sais plus, les 5. Et voilà, et on se les a montrés, tous ensemble. Nous, ça nous change beaucoup, parce que d'habitude, on produit un film, on est producteur, le réalisateur part faire son film, nous, on voit un peu de rush, on voit le montage, on est en relation directe. Là, on était tout d'un coup, 8 autour de la table, à regarder des films de 1 minute. Donc, une attention très forte sur les films. Et quand on se les a montrés, on a affiné notre propos. On s'est dit ça va, ça va pas. Faut qu'il y ait plus de rythme. Est-ce que ça doit être drôle? Est-ce que voilà. Et le grand débat qui nous a occupé entre la France et le Canada, c'était le documentaire. Qu'est-ce qui était documentaire et qu'est-ce qui ne l'était pas? Parce que les films canadiens étaient extrêmement fictionnés. Voilà. Donc on était chacun sur des débats sémantiques presque sur des films de 1 minute. Nous, on aime beaucoup les documentaires très décalés, barrés, drôles, où on ne s'interdit pas de vraiment mettre en scène. Voilà. Et je vois qu'il y a du public, de temps en temps, qui nous le reproche en disant « Oh, mais ça n'a pas l'air d'être vrai » ou « Est-ce que c'est vraiment du documentaire ?» Parce que les gens confondent vraiment reportage et documentaire. Et le Canada allait beaucoup plus loin que nous. Et nous, on était très heurtés par ça, très, très gênés. Quand on voyait les films, on disait « Mais c'est pas du documentaire !» Voilà. Donc finalement, on s'est mis d'accord que ce serait d'une immense variété de formes. Que c'était ça qui était amusant, que les gens qui allaient se balader dans les 100 films, ils auraient des choses du classique à complètement expérimental. Ça nous amusait bien et c'est là-dessus qu'on s'est mis d'accord. Qu'on n'allait pas se forcer les uns les autres à se mettre un style obligé.
Au niveau du financement comment ça s'est passé? C'est quoi les étapes du financement oui, d'un projet transmédia?
Alors, celui-là, ça a été... on est tombé juste à l'arrivée du web COSIP, je crois. Donc le CNC aide au financement des documentaires. Et le CNC qui est assez en pointe sur les nouveautés, sur les nouvelles façons de produire. Ils ne sont pas du tout comme une administration française classique à la ramasse qui change au bout de 20 ans de... Et là, ils se sont adaptés tout de suite à cette forme nouvelle. Donc c'est Arte qui a financé sa partie, comme c'est le cas pour un documentaire classique de l'antenne. Et le CNC a complété à hauteur des minutes produites. On a produit 53 minutes, donc c'était le financement classique du CNC. J'ai plus les chiffres en tête, j'ai oublié de les regarder hier. Ça date d'il y a 2 ans maintenant.
Question importante, comment est-ce que vous avez pensé l'interactivité et la place de l'utilisateur dans le dispositif en fait?
Alors, moi je ne suis pas la super bonne personne pour ça, parce que je suis vraiment productrice de films et pas productrice de plateforme. C'est-à-dire que presque, enfin, Arte et l'ONF, ils sont vraiment au cœur de ça. C'est leur ambition, leur volonté permanente de penser à la place de l'internaute et de l'interactivité. Ils n'ont qu'une terreur, et je pense qu'ils la voient arriver assez souvent dans les projets proposés par des producteurs, c'est de faire des CD-ROM. Un côté, je vais faire des déambulations, je vais me promener. Je pense qu'ils ne comptent plus les projets qui arrivent avec on va visiter Paris, on va s'arrêter, il y aura des cartes, des pop-up, des choses comme ça. C'est-à-dire des choses extrêmement plan-plan et une vision passer de ce que peut être le webdoc. Donc ça, eux, ils sont obsédés par des formes d'interactivité extrêmement amusantes. Et ça, ça a été vraiment leur partie avec l'ONF. L'ONF, ils creusent beaucoup la question de l'interactivité. Ils vont dans des domaines. Moi, je ne comprends pas tout. Quand ils expliquent ce qu'ils font, ils sont... voilà, c'est d'autres sphères. Et nous, on s'est un peu laissé porter par eux sur cette question-là. C'est-à-dire qu'eux, ils voulaient vraiment que l'internaute attrape des objets sur son bureau, soit dans la rue et puisse scanner, soit chez des amis, il dit tiens, regarde ce film, et de prendre un bouquin et de scanner le code barre et que le film sur le roman se déclenche, que les gens puissent envoyer des objets et de pouvoir, faire ça. Et puis aussi, d'utiliser l'internaute comme un affineur de la base de données. C'est-à-dire que c'était très compliqué de classifier les objets et de rentrer les millions, milliards de codes barres dans cette base. Donc, ils ont rentré les codes barres canadiens, français et allemands, je crois, mais je ne suis pas sûre, je pense. Et en fait, le code barre ne marche pas pareil partout. Ce n'est pas exactement classé comme objet culturel ou comme produit laitier. Donc ça, ça a été un boulot de dingue. Et en fait, plus l'internaute regarde le film, quand il scanne un objet et on lui dit « Ceci est bien un objet culturel, vous avez scanné un livre », et l'internaute dit « Oui », du coup, la base de données aspire ce code barre et l'engrange, et pour le prochain internaute, ça va encore affiner la recherche. C'est-à-dire qu'au début de code barre, quand vous scannez un objet, encore un bouquin, vous pouviez avoir le risque de vous retrouver sur un produit laitier. Et voilà. Donc ça a été un truc qui s'améliorait avec le temps. Donc ça, c'était rigolo.
D'accord.
Voilà.
Vous, quelle définition vous donnez du transmédia ?
Ah non, je refuse ça. Nous avons... Je sais pas. C'est des grands débats. On rigole entre cross-média et transmédia. On se fait des dessins à chaque réunion à Arte. J'en sais rien. Ça ne m'intéresse pas.
Ça vous intéresse ?
Non, ce que je veux dire, c'est que moi, je produis des films. Après, de savoir si le film, il est vu sur des différents supports, c'est-à-dire transmédia, iPhone, ordinateur, télévision, ce qui a été le cas pour Code Barre, parce que il y a des films qui sont remontés sur l'antenne, donc étaient transmédia. Ou savoir s'il est cross-média, parce que ce n'est pas exactement le même objet sur différents médias. Honnêtement, ça me pèse dans mon travail. C'est normal qu'il y ait des mots pour parler des choses. Mais en tout cas, en ce moment, moi, je suis en train de vivre une chose très étrange, c'est-à-dire qu'on est en train de produire en ce moment pour Arte, enfin, de développer une œuvre interactive. Donc moi, ça me heurte la bouche quand je parle comme ça. Parce que où j'arrive à parler de films, j'arrive à parler d'Internet, mais l'idée qu'il y ait le web, que à l'antenne, il y ait un film, et que tout ça, on ne peut plus appeler ça un film, que les gens appellent ça des vidéos, que ce qu'on est en train de fabriquer, c'est une OI, œuvre interactive, et qu'on n'appelle plus le film, on appelle ça le produit antenne ou le produit web. Honnêtement, ça m'assomme.
Donc vous pensez que c'est possible de produire des œuvres nouvelles avec des caractères innovants,
ouais,
etc.,
absolument,
qu'on peut qualifier de transmédia sans être le nez dans les définitions et sur la terminologie.
Ouais. J'ai l'impression que quand je parle à un réalisateur après, je parle pas de ça. C'est pas quand je parle à un réalisateur, je lui dis, est-ce que tu as envie de faire ce film sur tel sujet pour Arte ? Ici c'est un film d'une heure pour la télé, ici c'est un film de une minute pour le web.
Au final, il faudra toujours une caméra et ça change.
Et c'est un réalisateur et c'est des écritures, il faut du talent. Et pour moi, toute cette phraséologie, ça me coupe l'envie. Ça me coupe l'appétit, j'ai l'impression d'être...
C'est pas votre boulot, quoi.
C'est pas mon boulot, non. Et ça et c'est presque médical pour moi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça enlève à ce qu'on fait pas mal de l'essence même des films. J'ai l'impression que ça met des couches et des couches et des couches. Et à un moment, je lis des dossiers transmédia parfois. Et à la fin, on se dit, mais c'est quoi ? Mais de quoi on me parle ? De quoi on me parle ? De circulation, de je me promène, que je clique là, que ça apparaît, etc. Et tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il y a y a une chose qui se perd dans l'émotion, dans le sens, dans le propos, voilà. Donc je pense que c'est un enjeu extrêmement difficile pour les gens qu'on appelle architectes transmédia ou concepteurs, de retrouver une émotion de l'écriture. Moi, quand j'ai envie de produire un film, c'est que j'ai lu un texte pas forcément très bien écrit du point de vue de la littérature, mais qu'il s'est passé quelque chose dans le texte qui m'a été communiqué. Une envie, un charme. On produit une fille qui s'appelle Pauline Horowitz, elle écrit des textes. Moi, je hurle de rire, quoi. Elle écrit 4 pages, on voit très bien le film qu'elle veut faire, même si ce n'est pas ultra détaillé, on sent un univers, une passion, un ton, une écriture. Voilà. Et quand je lis un transmédia, un dossier transmédia, mais je veux me tuer. Il y a pas grand-chose d'émotion. Et ça, je pense que c'est un enjeu, je pense que c'est possible de le faire, parce que c'est le début. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est presque comme... j'en ai pas vu beaucoup, mais quand vous lisez des choses sur l'urbanisme ou l'architecture, de temps en temps, il y a un truc froid, quoi. Il y a un truc qui vous... la poétique du rond-point, de je sais pas quoi, du piéton dans la ville, etc. Il y a une chose qui n'est pas incarnée. Pour moi, c'est ça. C'est que le dossier transmédia, assez souvent, ça ressemble à une leçon d'urbanisme.
Parce que je suppose que ça vient du fait que les nouveaux auteurs qui écrivent du transmédia, ils n'ont pas encore trouvé leur manière d'articuler les mots aussi, d'écrire. C'est un nouveau langage, en fait.
Absolument.
Donc, il faut quand même qu'ils arrivent à raconter leur histoire et une intention. Et en même temps, il y a le caractère technique qui est là, voilà. Qui est extrêmement prégnant. C'est pas juste « il va nous falloir une caméra », c'est « il va nous falloir une caméra », »,« il va nous falloir des développeurs », »,« il va nous falloir des supports », »,« il va nous falloir ça », »,« Internet », etc. Et ça, je pense que cette complexité-là, l'intégrer dans une note d'intention, je pense que c'est là que ça devient problématique, qu'ils ne peuvent pas se dire « bon, je laisse ça de côté », parce que c'est ce qui fait le truc aussi, quoi.
Non, mais dans quelques temps, on aura tous le même vocabulaire. Oui. On arrêtera de se demander ce que c'est transmédia, cross-média. Je ne sais pas, c'est comme si je proposais un projet documentaire à une chaîne de télévision et que je ne parlais que de la forme, que de la technique, et ce serait pénible, quoi. Ce serait très pénible. Donc, l'enjeu, pour moi, de ces dossiers-là, c'est d'arriver fortement à imbriquer les films à l'intérieur, ou les vidéos, mais que ça, ce soit très en avant. Parce que sinon, pour moi, ça n'a pas de sens. Enfin, en tout cas, c'est une lecture tuante.
Vous pensez donc que c'est important qu'il y ait quand même des gens dont c'est le métier de définir le transmédia et toutes ces choses-là pour que ce soit clair?
Oui, alors le problème, c'est ce qui est difficile, c'est celui qui va écrire le projet transmédia, c'est peut-être pas le réalisateur des films. Et du coup, cette force, cette vision du projet, elle n'est pas portée. Pareil. Un réalisateur, il a son film dans sa tête, il le voit bien. Alors, de temps en temps, il a du mal à écrire. Hein. Il y en a qui sont nuls pour l'écrire, il y en a qui arrivent très bien. Mais il est porté, il sait où il va. L'architecte transmédia qui va écrire son dossier, lui, il doit intégrer les œuvres de quelqu'un d'autre. Et du coup, ça sent. Ça sent parce que c'est un peu désincarné et c'est technique. L'enjeu, c'est de faire comprendre comment ça va bien marcher, comment ça va bien s'articuler, comment l'internaute il va bien être interactif. Donc, il y a un côté vendeur de soupe, extrêmement, pour moi, ça ressemble aussi à du langage publicitaire. Et puis, après, on rajoute le film, et pourquoi pas, et puis on va avoir le film antenne, et puis on pourrait avoir les t-shirts, les chaussettes. Enfin, c'est pour ça que ça me gêne. C'est des lectures qui me dérangent. Mais je pense que c'est pas perdu. Je pense que il y a du boulot pour que ça fasse équipe. Je vois bien que quand on produit un webdoc, nous d'habitude sur un film on s'adresse à un réalisateur, on a des débats qui durent, qui sont intéressants. Quand on fait un webdoc, on est avec 5 métiers, 6 métiers autour d'une table. Et il n'y a pas un pilote de ligne, un pilote d'avion qui va dire où je vais. Tout le monde est défend son univers. Le réalisateur leur film, l'architecte transmédia, son architecture, un designer, le look de tout ça, l'informaticien qui va faire, le développeur qui va faire la plateforme, et chacun est là avec son petit carnet, ses petites notes, voilà. Et nous, on fait de la tambouille de tout ça avec Arte. Donc, je pense que, voilà, il faut qu'il y ait je ne sais pas si c'est encore un nouveau métier, mais c'est très difficile d'avancer sur une œuvre qui n'a pas de chef de chantier trop. Donc, du coup, nous, comme producteurs, on a été mis à une place plus. On tranche beaucoup plus que sur un film, par exemple, où je pense qu'on laisse plus de liberté à un réalisateur. Là, on est obligé de trancher à un moment si il ne va pas y avoir 85 pages. Non, on ne va pas le faire le truc en noir et blanc. Non, il ne va pas y avoir 80 vidéos, il y en aura 15. Enfin, voilà. Donc, on se retrouve à dire oui, non, oui, non.
Quels sont vos projets en cours et futurs pour Quark Productions, justement ?
Les projets en cours. Donc, on fait des films. Mais ça ne vous intéresse pas. Les documentaires. En ce moment, on est en train de terminer un gros film pour Arte sur la fabrication du Sud-Soudan, nouveau pays, qui est sorti des griffes du Soudan et d'une guerre qui a duré 50 ans. Et donc, on filme cette aventure. C'est quoi créer un pays qui n'existe pas, qui a 20 km de route, qui est grand comme la France et où il n'y a rien. Donc, c'est l'ONU qui vient avec des kits de construction. Voilà. Donc, nous, on filme ça depuis un an. C'est un film de 80 minutes. On répond à un appel d'offres d'Arte pour des films aussi de 52 minutes, dont la thématique est de nouvelles utopies. Donc, on a proposé à des réalisateurs, ils ont écrit. Et sur le web, on est en train de démarrer des choses avec Radio France. L'ancien directeur du pôle web d'Arte est passé à Radio France. Et il a très envie d'avancer des choses à la radio. Comment on fait de la radio avec des images ou pas, toutes ces questions-là. Donc là, on fait des projets d'animation sur France Inter pour les élections américaines avec un jeune dessinateur américain. Et pour Arte, on développe un projet qui s'appelle Come Out. C'est sur le coming out. Et c'est des filles avec qui on a travaillé sur Modern Couple, un autre documentaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur l'arrivée du premier enfant. Et on nous a proposé ça. L'idée, c'était de dire que chez les ados homo, il y avait 30% de tentatives de suicide. Et que chez les ados hétéros, il y en avait 3%. Et que c'était un vrai problème. Et nous, ça nous a intéressé qu'elle vienne nous proposer ça, parce que on avait envie de sortir la problématique homo du côté associatif et pathologique et désespérant, triste, etc., et combatif, pour le mettre vraiment dans un webdoc où on peut rigoler, on peut apprendre, parce que c'est un sujet de société. Donc leur idée, c'est de faire façon méthode de coaching à l'américaine, comment faire son coming out en 10 leçons, dans une chose interactive. Voilà. Donc nous, on propose un film pour Arte, pour l'antenne, autour du mariage pour tous et de la loi qui va passer cette année. Donc on suit toute la fabrication de la loi, comment les gens ils vont tous s'entretuer autour de ça, mais que ça va passer. Donc ça, c'est le film. Et sur le web, voilà, elles sont en train d'écrire ce projet-là. Voilà.
Merci beaucoup.
Bah, de rien.